résonance. Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous. Résonance, un grand amphithéâtre à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Aujourd'hui, deuxième volet, deuxième partie de notre grand voyage, de notre parcours sur près de deux siècles, dans lequel je vous propose de découvrir les divers usages de l'art dans les lieux institutionnels. Tout d'abord l'asile, puis l'hôpital psychiatrique et le secteur du médico-social. Un voyage historique qui va vous permettre d'aller à la rencontre de praticiens qui ont conçu et mis en œuvre des pratiques soignantes au moyen de l'art. Un parcours qui a pris source au cours de notre première émission au XVIIIe siècle pour nous conduire jusqu'à notre aujourd'hui. Alors c'est avec un grand plaisir que nous allons retrouver Gérard Bonnefond qui a déjà été notre précieux guide et qui va l'être au cours de cette seconde partie de notre grand voyage. Gérard Bonnefond, observateur avisé des pratiques artistiques dans le champ de la santé et du médico-social, est l'auteur de différents ouvrages sur ce sujet. On peut en citer quelques-uns, Art et liens sociaux, Handicap et cinéma, Penser l'éducation populaire, Humanisme et démocratie, des ouvrages parus aux éditions Chroniques sociales. Heureux de vous retrouver. Alors, nous allons poursuivre notre voyage. Et notre point de référence pour ce voyage est toujours votre ouvrage que je citais tout à l'heure, « Pratiques artistiques et thérapie par l'art de l'asile au médico-social » paru aux éditions des Chroniques sociales. Alors, lors de notre première émission, notre voyage nous avait conduit jusqu'à Ville-Évrard. On avait déjà fait un grand parcours, donc Ville-Évrard, asile, puis maison de santé et enfin hôpital psychiatrique installé à Neuilly-sur-Marne. Et nous avions pu commencer un peu à découvrir l'action d'un réformateur qui était donc de l'aliénisme, qui était Évariste Marandon de Montiel. Alors peut-être on peut aujourd'hui, Gérard Bonnefond, repartir de celui-ci et évoquer ce début du XXe où vont prendre place petit à petit dans les loisirs institutionnels, petit à petit des spectacles, le théâtre, la variété, les chansonniers, le cinéma, et puis bien sûr progressivement des initiatives aussi culturelles ou sportives qui vont appliquer également, et là des faits nouveaux, de plus en plus la participation active des malades, comme on trouve aussi des divertissements organisés par les malades, par des professionnels du spectacle. Voilà donc une phase très importante, Gérard Bonnefond, qui se présente à nous, en tout cas quand vous avez commencé, si je peux dire, de l'ausculter d'un petit peu plus près.
Alors si nous partons de Ville-Évrard, l'aspect le plus important, plutôt le grand rénovateur, comme vous l'avez cité, c'est Évariste Marandon de Montaigle. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la construction de l'asile de Ville-Évrard, il y a toujours eu des activités à caractère, on va dire, de loisirs culturels, c'est-à-dire qu'on trouve très tôt un théâtre, où ce sont, alors il n'y a pas de mixité,
c'est ça, les hommes et les femmes de part et d'autre.
Séparés, et puis on réécrit, quand il y a des rôles de femmes, on réécrit pour que ce soit des hommes qui les tiennent. En tout cas, toute une activité de loisirs culturels, il y a Culturel, oui. Alors, théâtre, il y a la fanfare, bien entendu.
La fanfare très présente.
De Villevrard, très présente, qui défile avec des internés de l'asile et puis des gardiens qui défilent dans l'établissement en particulier. Et c'est une fanfare institutionnelle qui a fait l'objet d'une subvention de la préfecture de la Seine pour acheter des instruments. Et cette formation était tellement dotée qu'au moment de la guerre de 14-18, un colonel d'un régiment trouvait que ça serait fort bien de récupérer les instruments de la fanfare pour son propre régiment. Bon, il n'y a pas eu de suite, mais en tout cas, une fanfare très active, du théâtre. Et puis, progressivement, il y a eu deux aspects, c'est-à-dire, on fait pratiques artistiques, théâtre, musique, comme évoqué, à l'initiative des aliénés. Et très tôt, dès les années 1920, on trouve des prestataires extérieurs qui viennent, alors là, carrément dans le loisir, dans la salle des fêtes, dans la salle de spectacle, donner des représentations pour les malades et les familles, le dimanche, en règle générale. Voilà, c'est de la détente. Alors, c'est avec des cachets, hein, c'est-à-dire c'est une programmation, du burlesque, des mimes, de la danse, des imitateurs, tout ce que l'on pouvait trouver à l'époque. Alors là, c'est la grande époque, on va dire, du loisir culturel avec de la distraction. On n'est pas dans le thérapeutique au sens strict du terme, vu qu'il ne s'agit pas d'art-thérapie, mais il s'agit effectivement d'occuper par la détente, en plus du travail, des internés de l'asile. Du côté de la maison de santé, bien divisé en deux, Villevrard, l'asile public, maison de santé, on paye. C'est-à-dire, ce sont des populations beaucoup plus aisées, en trois catégories. Camille Claude, elle a été
justement,
à la maison de santé. Elle n'a pas du tout fait de sculpture ni de modelage. Elle ne faisait plus rien.
Elle ne faisait plus rien.
Avant de partir à Mondevergue, ensuite. On trouve à la maison de santé, à l'initiative de psychiatres, la mise en place, sur la base de répertoire, d'ateliers, de pratiques artistiques, de pratiques théâtrales. Et on joue des pièces en interne, alors avec des séances très organisées. Alors il y a une séance pour les malades, une séance pour le personnel, une séance pour les familles. Ce sont des choses très structurées, ça se fait en 2-3 temps. Et puis, c'est du répertoire sous la direction d'un psychiatre.
C'est ça.
Voilà.
On va quand même aller chercher du répertoire.
Oui, un peu. Mais c'est pas Charenton que nous avons évoqué.
C'est ça.
On n'y est pas du tout. Là, ce sont des malades. Il n'y a pas de souci d'intégration. C'est le docteur Legrain, si ma mémoire est bonne, qui organise, entre autres, ses activités théâtrales. Et on va jouer à Sainte-Anne, où des notes de service, où il y a des demandes, plutôt que j'ai pu lire, où il y a des demandes pour assurer le transport des malades
jusqu'à l'établissement.
Pour aller interpréter à Sainte-Anne tel ou tel spectacle.
C'est intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, quand on parle du dispositif culture et santé, où on essaye de réinvestir aussi l'hôpital, à le mettre dans le circuit du lieu de vie, pas coupé, mais que du coup, dans ce cadre-là aussi, outre le soin, bien sûr, qui peut faire que la personne fasse un séjour à l'hôpital, continue au travers des pratiques artistiques qui peuvent être lui proposées, ou des rencontres qui peuvent être lui proposées dans ce domaine-là, d'être en lien, voire de découvrir aussi des nouvelles possibilités en elle. Là, on voit aussi que déjà, il y avait toute une dimension très importante qui s'est un peu estompée après, peut-être par la suite, ou a pris d'autres formes. Mais là, il y avait quand même toute une dynamique importante, là aussi.
Il y a une dynamique importante, même si les pratiques culturelles, il faut bien le préciser, concernent une minorité de malades.
C'est ça aussi, c'est pas toute une largesse de population.
Non, du tout. Mais aujourd'hui, et ce qu'il faut repérer, c'est qu'on est dans une continuité. La musique au chevet du malade existe depuis très longtemps.
Très longtemps.
C'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, ça a été réactualisé, retravaillé. Mais c'est des pratiques qui existaient. Organiser des spectacles dans les établissements, ça existe depuis très longtemps. très 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 longtemps. Et puis, les conceptions, là nous l'avons évoqué précédemment, du soin par la musique en particulier, existaient également dès la création de l'asile.
Voilà,
donc,
oui, tout
toujours,
à fait.
Toujours l'aspect minoritaire. Lorsqu'il est intéressant...
Est-ce qu'on peut dire un aspect élitiste à ce moment-là?
Non, je dirais pas élitiste.
C'était plutôt question de classe sociale.
Non plus, parce que l'asile recevait, on va dire, à Bicêtre ou à Villévrard et ailleurs, recevait les populations qui ne pouvaient pas aller dans les maisons de santé, et les pauvres.
Ouais.
Et les activités proposées selon le style du médecin, Marandrel Monteil ou Bourneville, il y avait une volonté éducative, une volonté rééducative. Une volonté d'apprentissage pour former des personnes, pour les soigner. Et les pratiques artistiques faisaient partie, on va dire, du protocole soignant, sachant qu'il y a toujours l'idée pinélienne derrière, c'est-à-dire que l'établissement doit être soignant lui-même.
C'est ça.
Même si nous devons dire qu'il ne faut pas idéaliser non plus, vu la massification du nombre d'internés dans les établissements, ce projet n'a pas complètement abouti. Et ça reste... tout le monde n'y avait pas accès.
Voilà,
là,
ça.
Je parle des pratiques artistiques,
tout à fait,
culturelles. En revanche, les distractions à Villévrard,
ça, c'était ouvert à tout le monde.
C'était beaucoup plus large.
Beaucoup plus large, effectivement.
L'aspect le plus intéressant, c'est le CTRS de Paul Civadon. C'est la libération. Il avait le pavillon à l'asile le plus difficile quand il arrivait pendant la guerre.
Voilà.
Celui des alcooliques, personne n'en voulait. Et il a fait un travail remarquable. C'est la psychothérapie institutionnelle, je dirais. C'est l'aboutissement du projet pinélien, ce qu'a construit Civadon, avec des activités soutenues, à la fois de loisirs, de travail, des psychothérapies également, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, on va dire, les traitements médicamenteux, on va dire.
Là aussi développé qu'aujourd'hui.
Qui se sont développés dans l'après-guerre, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Rompre avec l'enfermement, et il y avait l'organisation de fêtes, il y avait l'organisation d'activités sportives, de rencontres sportives, de spectacles, le cinéma, des discussions sur la télévision également. Est-ce que la télévision, ça vaut le coup de la faire regarder aux patients? Les patients vont regarder la télévision, et les soignants disent « Oh là 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 là, c'est peut-être mauvais pour eux ».
Voilà, c'est
bon,
ça.
Il y a eu la télévision. Il y avait également, il y avait un journal réalisé par les malades eux-mêmes, qui racontait, qui narrait la vie quotidienne dans l'établissement, qui parlait de la sortie, qui interpellait le personnel soignant. C'est-à-dire une vie sociale le cadre de l'hôpital psychiatrique. On ne disait plus asile à l'époque, dans le cadre de l'hôpital psychiatrique. Et dans le cadre de ce service, qui en fonction, plutôt, ou à partir de mes lectures, des études que j'ai pu faire, était un service tout à fait exemplaire et intéressant dans le cadre du service public. C'était le service de Paul Civadon, c'est tout à fait remarquable en tant que tel, avec un souci d'intégration. On préparait la sortie également, parce que on passe pas sa vie à l'hôpital, il y a aussi l'idée de sortie. On essaye d'éviter la chronicisation, même si elle existe encore à l'époque. C'est... En tout cas, toutes ces idées s'étaient tournées vers trouver une vie sociale et culturelle qui avait une fonction soignante en tant que telle, bien entendu. Alors, bien sûr, il y avait des groupes de parole à fonction thérapeutique, il y avait des rééducations fonctionnelles, mais cet aspect pratique artistique, c'est-à-dire théâtre, musique, et distraction, cinéma, télévision, on assiste à des spectacles, l'aspect sportif également.
Aussi,
prenait une grande place, et puis des grandes acquisitions qui peuvent prêter à faire sourire, mais le jour où il y a eu un coiffeur à l'extérieur des services dans Villévrard, c'était
quelque chose
déjà considérable.
Oui,
le jour où il y a eu une buvette à l'extérieur, alors sans alcool, les internés considéraient que c'était une avancée considérable.
Alors peut-être on embrase une grande période là en même temps. Peut-être on peut revenir un petit instant. On était début du 20e aussi un peu là-dessus. Revenir sur cette période tragique aussi simplement pour soulever aussi un peu cette période aussi dans cet établissement. 45, cette tragédie qui était la Seconde Guerre mondiale, l'occupation nazie, et simplement de soulever que là aussi, c'est une période aussi délicate pour ces établissements-là, et aussi une période où forcément toutes les activités, les pratiques artistiques que nous venons d'évoquer ont été un petit peu mises un petit peu en demeure, ou en tout cas plutôt un peu plus ralenties. Et puis on sait aussi que c'est une période sombre aussi pour un certain nombre de ces hommes et de ces femmes qui sont plutôt mortes, on va dire, de faim, de froid, dû aux restrictions, aux difficultés de nourriture dans un certain nombre d'hôpitaux et d'hospices pendant la Seconde Guerre mondiale en France aussi. Il y a une période un peu de cet ordre-là assez particulière.
Alors, à Ville-Évrard, pendant l'occupation, c'est-à-dire sous le régime de
Oui.
Vichy, toute activité de réunion était interdite.
Voilà, c'est ça mettait en jeu toutes
Voilà.
ces réunions-là,
Voilà,
publiques et pratiques.
il y avait, sur exception, pour soit le jour de l'an, soit pour la Noël, il y avait quelques
Moment.
activités, quelques moments festifs, mais c'était interdit. Bon, ce qui a été mis en évidence, c'est effectivement les problèmes d'alimentation,
L'alimentation, hein, ouais.
les malades, il y en a qui en sont morts, le taux de mortalité était important.
On évoque 40 000 éventuellement disparitions pendant cette période dans les asiles.
Je suis votre chiffre, hein, je ne l'ai pas en mémoire
Je l'ai pris dans votre
directement.
ouvrage.
Oui, non, la mortalité par la famine était importante et indéniablement posait un gros problème. Là, moi, je me réfère aux travaux de Claude Quettel,
Oui.
qui a souligné que les autorités de Vichy, effectivement, avec les restrictions sur l'ensemble, on va dire, du territoire, faisaient qu'on pratique pas le marché noir, on mangeait très mal, très 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 mal. En ce qui concerne les lieux d'enfermement, et là, on pense à l'hôpital psychiatrique, il n'était pas exclu que une partie du personnel détourne une partie de la nourriture, qui faisait que les malades étaient réellement affamés et la mortalité accrue d'une manière
C'est
indéniable.
ça.
Alors, où Claude Quettel, plutôt, a mené une réflexion tout à fait intéressante. Est-ce que c'est une extermination voulue
Que
ou est-ce que
voulu ou
c'est,
une conséquence, en tout cas.
comme les nazis, ou est-ce que c'est la conséquence de la sous-nutrition chronique? Les statistiques qu'il a mis en évidence dès que le régime de Vichy, et Dieu sait,
Oui.
ce sont des gens guère fréquentables,
Complètement.
il y a eu un redressement, la mortalité a diminué, il y a eu des interventions.
Ouais.
Voilà, c'est les travaux de Quettel, ce que j'en ai lu, moi, me semble tout à fait crédible. Dans les établissements progressistes et résistants, surtout comme à Saint-Alban,
Saint-Alban, ouais. Le contexte
le
est un peu
berceau de
différent.
la psychothérapie institutionnelle, entre autres, avec Tosquelles, il est indéniable qu'il y avait Lucien Bonnaffé était présent
Qui était aussi
également.
là-bas, oui.
Il est indéniable que on vivait
Beaucoup
mieux
mieux.
et les malades également. C'est-à-dire on résiste à tout point de vue, c'est-à-dire à l'occupant, à Vichy, on résiste à la maladie d'une certaine manière, et puis on permet à tout le monde de vivre et d'avoir des activités. Voilà. Et Saint-Alban était considéré plutôt, c'est la psychiatrie progressiste. Saint-Alban en reste un des berceaux.
Je vous
Voilà.
propose alors maintenant, Gérard, une petite pause musicale avec Steve Waring, interprétant une chanson La Différence, qu'il a imaginée musicalement à partir d'un texte de Nathalie Netstein.
Ta différence, Nathalie, jamais ne me gêne. Ta différence. Il s'agit pour moi d'une veine, sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit, sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit, s'enrichit. Ta différence, n'est pas plus grande que la mienne. Ta différence me fait respirer un bol d'oxygène. Sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit. Sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit, s'enrichit. Ta différence, tes phrases qui souvent surprennent. Ta différence illumine chacun de tes poèmes. Sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit. Sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit, s'enrichit. Ta différence, Nathalie, jamais ne me gêne. Ta différence illumine chacun de tes poèmes. Sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit. Sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit, s'enrichit. Ta différence, Nathalie, jamais ne me gêne. Ta différence illumine chacun de tes poèmes. Sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit, sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit, s'enrichit. Ta différence, Nathalie, jamais ne me gêne. Ta différence illumine chacun de tes poèmes. Sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit, sans copie, le monde s'enrichit, s'enrichit, s'enrichit. Ta différence, Nathalie, jamais ne me gêne.
Résonance sur Radio B, pratique artistique et thérapie par l'art de l'asile au médico-social, avec notre invité Gérard Bonnefond. Gérard Bonnefond, alors nous venions d'évoquer cette période plus sombre justement de cette partie du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale, avec ses difficultés. Et puis bien sûr, nous allons poursuivre, puisque notre émission nous entraîne peut-être à aller jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, pour suivre le déroulé de votre ouvrage. On va dire que les choses reprennent, et puis, petit à petit, tous ces courants autour des pratiques artistiques, bien sûr, continuent, et on voit petit à petit apparaître d'autres initiatives, d'autres voies. Alors j'en cite quelques-unes, et puis comme ça nous allons rebondir ensemble et détailler certains plus particulièrement. Je pense par exemple à celle de Maud Manoni aussi, ou de Robert Lefort, ou aussi de Jean Houry, ou de Michel Couad, qui sont toutes des personnalités qui, petit à petit, vont mettre en œuvre des pratiques artistiques aussi dans des lieux ouverts, enfin dans des lieux de soins ouverts et dans une dimension d'ouverture vers la cité aussi. Ça va être aussi des éléments forts du courant, peut-être qu'on va essayer d'approcher un petit peu ensemble, Gérard Bonnefond.
Alors les trois, les trois références que vous citez, Maud Manoni et l'école de Bonnefond, oui. La clinique de la Borde avec Jean Houry et Michel Couad.
Et Michel Couad.
Qui dirigeait, puis envolait un service. Pour caractéristique, c'est l'ouverture des établissements sur la cité, dans un va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. La référence à la psychanalyse freudienne est déterminante.
Là aussi, oui.
D'un point de vue théorique. Et c'est le lieu. Si le lieu doit être soignant, pour placer sous la référence de la psychanalyse, on ne fait pas de la psychanalyse au sens strict à l'intérieur. La caractéristique, c'est on ne fait pas d'art-thérapie.
Oui, voilà, c'est ça. On affirme cette notion-là.
En aucun moment, on parlera tout à l'heure des thérapies par l'art.
Tout à fait.
Mais, par exemple, Michel Couad, qui a fait un travail tout à fait remarquable, il a travaillé avec un des musiciens de Steve Warren.
Absolument, Alain Gibert.
Alain Gibert.
Voilà. On lui fait un petit clin d'œil, parce que comme il nous a quittés en 2013, on pense fortement à lui.
Et Alain Gibert a travaillé avec Michel Couad, dans un atelier musique, avec des spectacles. Ils appelaient ça dans le grenier. Bruno Boussagol a conduit un travail théâtral remarquable. Et puis, d'autres intervenants en art floral ont conduit un travail d'expression artistique. Voilà.
Complètement.
Et
voilà.
L'aspect important, c'est que Michel Quad considérait et considère toujours ses activités, il est à la retraite maintenant, mais il a toujours considéré ses activités comme faisant partie de toute activité que conduisent des humains.
C'est ça. Il l'a réinscrit dans cette globalité. Voilà, c'est ça.
Le soin, c'est autre chose. Pour le traitement.
Le traitement.
Prendre soin des personnes, c'est être attentif. Le traitement, c'est autre chose. Il y a des protocoles pour le traitement. Mais là, ça fait partie. Alors, une des critiques qu'il avance, il dit il faut cesser d'associer, de voir de l'art-thérapie partout. C'est-à-dire, la moindre activité humaine devient... est placé sous l'emprise d'un dispositif soignant. Il dit cela n'est pas recevable. Il dit il faut proposer des activités en tant que telles et cela structure en tant que telle. On retrouve la même chose dans l'atelier théâtre de Bonneuil, les ateliers contes de Bonneuil chez Maud Manoni à l'époque, où c'était des activités de pratique artistique. Et il en est de même à la Borde, où chaque année, il y avait une grande représentation théâtrale, où étaient mêlés des artistes professionnels et, on va dire, des malades qui étaient accueillis, qui étaient reçus dans l'établissement, et une fête publique, c'est-à-dire une représentation publique. Là, on est très proche de la démarche de Charenton, par exemple, du temps de Coulmiers et de Sade. Mais toutes ces activités, toutes ces pratiques, bien qu'elles soient dans un cadre, on va dire, de traitement, correspond, on va dire, au bien-être, correspondent à l'attention aux personnes qui doivent conduire des activités parmi les autres, avec les autres, en milieu ordinaire de préférence. J'aime bien, par exemple, ce que Quad avait mis en place avec Bruno Boussagol. Et puis une infirmière tout à fait remarquable, Martine Bonnefou, qui travaillait avec eux, qui était présidente de l'association à l'époque. Une randonnée sur le chemin de Stevenson, où tous les soirs, alors avec des ânes, et puis on se déplaçait à pied, et puis de village en village, on allait jouer, on allait faire du théâtre.
Oui, voilà, c'est ça. Et Boussagol disait que donc il privilégiait un théâtre qui relève de la citoyenneté et non du handicap ou de la folie.
Oui. Alors, c'est l'évolution de Bruno Boussagol. Pendant très longtemps, il disait l'art des fous, c'est quelque chose qui lui semblait tout à fait recevable.
Recevable en tant que tel.
Et son évolution, c'est-à-dire avec tout ce que cela recouvre de talent ou de génie créateur, et peu à peu, il s'est complètement défait. Il a dit, moi, je fais un théâtre de citoyens, pour des citoyens, et ce sont des comédiens qui montent sur un plateau comme tout autre. Alors, c'est vrai qu'ils ont des difficultés dans la vie quotidienne, dans leurs relations, mais on retrouve que quand on est sur un plateau, on est avant tout un comédien qui joue pour un public, et c'est pas autre chose.
Oui, c'est ce que Alain Gilbert, je reprends un tout petit peu ses propos, et par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, quand lui, en tant que tromboniste, compositeur, il était associé à ce travail, en tant que musicien d'un collectif qu'on connaît bien ici en Rhône-Alpes, l'ARFI, qui est basé à Lyon, et il disait, comment faire sans tricher pour permettre à ses enfants de se confronter à un vrai public de façon à conforter leur expression et à lui donner un vrai but. Voilà. Et je pense que ce questionnement était très juste, quoi. Et va tout à fait dans ce que vous souleviez, dans la progression, en tout cas, de la philosophie de Bruno Boussagol aussi, qui du coup, réfute effectivement. Alors là, on parlait d'art-thérapie tout à l'heure, complètement la chose, mais vraiment prend en compte que ces personnes peuvent aussi rentrer complètement, on pourrait dire, dans le champ des pratiques artistiques amateurs, comme tout un chacun.
Oui, tout à fait. C'est la démarche, on va dire, de ces trois lieux. Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, oui.
Je dirais que c'est surtout le travail de Michel Quad, de Bruno Boussagol, que je connais le mieux pour avoir été plusieurs fois sur place. Pratique qui a cessé. Maintenant, Bruno Boussagol fait autre chose avec des personnes adultes au centre de santé de Sainte-Marie, au Puy-en-Velay. Mais moi, la démarche, c'est la pratique. Les pratiques en tant que telles ont une fonction, certes soignante, mais indirecte, mais surtout, elles permettent d'être liées aux autres.
C'est ça.
Et de pas, plutôt, on va dire, de faire un pas de côté, un écart par rapport à la souffrance mentale ou à la maladie, mettons-le, on peut mettre tous les mots possibles, mais en tout cas, c'est mettre par rapport au handicap, c'est-à-dire, vous êtes une personne.
C'est ça.
Qui fait de la musique, qui fait du théâtre, qui s'adonne aux arts plastiques, et autres, qui fait du football, et bien sûr que ces personnes ont un handicap, ont des problèmes, mais c'est pas dans ce registre-là qu'il faut
aller chercher les choses.
Se placer, voilà.
Oui, je reprends pour encore rebondir par rapport à ce que nous disions encore sur un propos de Bruno Boussagol qui effectivement va totalement dans ce que vous dépeignez, où il disait « La promotion d'un art des fous est un luxe dévastateur qui n'apporte strictement rien, si ce n'est qu'il inscrit encore plus les personnes dans la maladie. Regardez, cherchez la personne au-delà de la folie est la seule entreprise crédible. »
Oui, tout à fait.
Et là, il nous donne en tout cas des... On voit bien que... Alors là aussi, il y a des courants, on pourra en l'évoquer bien évidemment aussi un petit peu tout à l'heure. Encore des lignes de partage, là aussi, qu'on ressent tout à fait aujourd'hui, où il y a encore des discours qui s'opposent entre ces lignes de fond, si je peux dire.
Alors, il est utile de clarifier. Les thérapies par l'art existent depuis très longtemps. La musique qui apaise, et puis nous parlions de la musique au chevet du malade, ça avait une fonction directement thérapeutique. Hein. Il ne s'agissait pas de faire... C'est pas les fanfares, on apprend la musique.
Là, on est déjà dans autre chose, effectivement.
C'est un soin, plutôt. C'est un traitement.
C'est un traitement, vous l'évoquiez tout à l'heure.
Le terme soin pour l'attention globale, dans un temps, le cadre institutionnel, par exemple. Là, c'est un traitement. Alors, plutôt la question des thérapies par l'art, historiquement, c'est on en parle très très tôt, hein, le milieu du 19e, où il y a par exemple des discussions à la société médico-psychologique, et ce sont les écrits des malades sur lesquels porte l'attention, c'est-à-dire il y avait des controverses importantes sur le fait comment analyser les textes des malades. Alors, vous aviez une partie qui disait il faut travailler sur le contenu, en dégager le sens, et puis d'autres parties qui disaient non, il faut... la graphologie, c'est important, c'est-à-dire c'est la forme qu'il faut aborder. Bon, et puis après, le regard était strictement clinique.
C'est ça.
C'est la clinique qui était importante. On disait des cas. C'est la clinique, c'est-à-dire, et toutes les collections. Et c'est les arts plastiques qui sont la pierre angulaire
de ce projet
de thérapie par l'art qui s'énonçait pas en ces termes à cette époque-là. Mais on a commencé à faire des collections. Alors les collections, la première c'est celle de Benjamin Payas au Bon Sauveur à Albi, plutôt il voulait, c'est l'idée du musée psychopathologique, c'est-à-dire on collecte des travaux, qu'on a appelé ultérieurement des œuvres, on collecte des travaux pour dégager, pour comprendre la maladie, pour dégager des signes de la maladie.
C'est ça, ça sert d'analyse, en tout cas, encore une autre manière de pouvoir analyser le comportement mental ou la maladie mentale.
Le souci, c'est de comprendre la maladie, l'étudier. Oui,
c'est
ça. Là, vous avez raison, c'est l'étudier. On trouve ensuite, alors, toutes les collections, y compris celles qui étaient dans les bureaux des médecins.
Oui.
Il y a celle du docteur Marie, par exemple, à Villejuif. Il y a la célèbre collection Prinzhorn.
Oui, voilà, qui est un personnage important.
Il y en a eu en Europe. Et puis, il y avait eu des projets, à l'initiative de Jacques Villiers et de Ferdière, de créer un musée psychopathologique pour comprendre, pour étudier la maladie.
C'est ça.
Là, on va dire, alors s'y rechercher des signes de la maladie. Alors ça, c'était vraiment une grande préoccupation qui a duré très longtemps. Le grand moment où on réinterroge, la psychopathologie de l'expression et les psychothérapies de l'expression, c'est en 1950, exposition internationale d'art psychopathologique. Alors c'est quelque chose d'extrêmement important, 17 pays, de septembre à octobre, c'est à l'hôpital Sainte-Anne à Paris,
oui,
où 2000 œuvres ont été présentées.
Oui, c'est énorme.
350 malades, tous des cas. C'était l'idée de rassembler pour étudier. Alors, c'est montré au public également.
C'était
alors, on
public,
hésitait, est-ce qu'il y a du talent ou pas de talent,
oui.
C'est une grande discussion qui venait parallèlement.
D'accord.
Mais l'idée des médecins, des psychiatres,
c'était avant tout d'étudier,
c'est de comprendre.
Et de comprendre.
Alors, les conclusions sont très contrastées. Mais vraiment, Marcel Réjat, par exemple, très tôt, a dit qu'on ne repérait pas des signes de la maladie mentale, on va dire, dans des représentations plastiques. Hans Prinzhorn a dit exactement la même chose.
Ça,
on oublie de le dire.
Oui, tout à fait, vous avez raison.
Et vous avez Jean Delay, par exemple, grand médecin. Voilà ce qu'il raconte. Voilà, j'ai une note devant moi.
Oui, tout à fait.
Il convient donc de souligner l'extrême relativité, les aléas d'un diagnostic de maladie mentale posé sur les seules caractéristiques d'une œuvre. On s'expose à prendre pour le style d'une maladie ce qui n'est que le style d'une école, et réciproquement, ou à prendre pour maladie ce qui n'est que l'expression accusée ou même outrée d'un caractère. Et puis vous avez le professeur Lantéri Laura, à plusieurs reprises, dans ses appels à une grande prudence.
Prudence, oui, dans ses propos.
Il dit, on a des tas d'autres procédés, de nombreux procédés pour opérer des signes de la maladie mentale. Soyons prudents en matière d'art plastique. C'est un élément parmi d'autres, mais qui n'est pas décisif. C'est-à-dire, c'est toujours, de la part des médecins, la réserve, la prudence.
La prudence est plus grande.
Ça donne, on va dire, quand quelqu'un s'adonne aux arts plastiques, au théâtre ou à la musique, c'est un signe de, on va dire, entre guillemets, de bonne santé mentale. Ça verse du côté de la pulsion de vie.
C'est ça.
Voilà.
Et donc, du coup, dans ce contexte-là, gardons les arts plastiques, justement, pour, puisqu'on évoquait tout ce côté de la psychopathologie de l'expression, il y a le surréalisme qui va arriver, il y a un certain nombre d'artistes, et on pense... alors déjà, Hans Prinzhorn, qu'on évoquait en tant que psychiatre, là aussi, il va être un précurseur, un passeur, quelque part, là aussi, comme on l'indiquait, qui va faire qu'à un moment donné, des artistes comme André Breton, et puis, bien sûr, donc avec le mouvement des surréalistes, mais le plus connu par rapport à ce rapport-là, c'est Jean Dubuffet, qui était le concepteur aussi de l'art brut. On pourra parler aussi de Jean Revol, aussi, qui, lui... sera à côté de l'initiative de l'art originaire. On a aussi des artistes qui vont, en tout cas, émerger, des figures qui vont se dégager dans le domaine des arts plastiques et qui, là aussi, vont permettre de regarder, on va dire, ces réalisations artistiques avec intérêt, avec la quête de vérité, d'authenticité artistique. Et du coup, ils vont permettre aussi la rencontre, finalement, de ces auteurs qui ne dépendent pas du tout du milieu habituel de l'art, qui sont affranchis de tout modèle et toute bonne manière de faire ou de représenter. Mais du coup, petit à petit, ils vont amener à porter un autre regard, parce que là, c'est des artistes. Quand on pense à Dubuffet et bien sûr le concept de l'art brut, voire même André Breton, on pourra en citer d'autres aussi artistes, pour qui c'était important de cette découverte, en tout cas à la fois dans le questionnement, la rencontre, le questionnement de leur propre chemin artistique. Et voilà, il va se passer quelque chose d'assez important aussi à ce moment-là.
Alors, à propos du surréalisme et d'André Breton, ce qu'il faut bien avoir mémoire, c'est les surréalistes, c'est après le grand massacre de 14-18.
Voilà, on est à cette époque-là, oui. C'est,
on va dire, c'est la défaite de la raison. C'est la défaite, on va dire, c'est le retour à la barbarie. Donc, pendant cette période de guerre de 14-18, c'est recherché, on va dire, par les vrais authentiques, rechercher des vérités essentielles, c'est-à-dire rompre avec, on va dire, une bourgeoisie, une idéologie bourgeoise qui a permis, on va dire, l'innommable d'une guerre qui a fait des millions de morts et une boucherie absolument épouvantable. Alors les surréalistes sont à la recherche d'authenticité, d'un art authentique.
C'est ça.
Avec l'écriture automatique, on en parle régulièrement, les processus inconscients, lecteur de Freud, hein, Breton.
Oui, tout à fait. Et voilà, ça a beaucoup d'influence.
Les processus inconscients l'intéressent. Il veut comprendre les processus de création, voilà, à titre principal, hein, oui. Et vous avez quand même... plutôt. Alors, il pense, et là c'est une hypothèse qui est très discutable, mais c'est un paradoxe. Oui. C'est-à-dire, il pense trouver auprès des fous internés une parole vraie et authentique.
Ça, c'est ce qu'il pense trouver, effectivement.
C'est ce qu'il pense trouver. Et il y met l'énergie.
Oui, tout à fait.
Et il est membre de la première, du premier groupe de l'art brut, c'est-à-dire le groupe initial présidé par
Jean
Buffet. Il y aura des relations conflictuelles entre eux, mais à l'époque,
Il est solidaire de cette idée, oui.
Il est membre de la compagnie de l'art brut, voilà. Un certain idéalisme par rapport à la folie, où il espère trouver des talents, une vérité, ce qui ne se vérifie pas du tout. Mais où il y a un paradoxe, c'est que en même temps, il a fait émerger le talent de certains auteurs, et puis de dire que ces personnes n'étaient pas réduites à leur maladie mentale, étaient capables de culture, et en plus, elles pouvaient avoir des dons. Il fait rentrer toutes ces personnes dans le champ de la culture.
Voilà, c'est ça qui est important,
alors,
effectivement.
Alors, il y a un paradoxe, c'est-à-dire on les enferme dans la folie au nom de leur talent, et en même temps, on leur ouvre le monde au nom de ce talent et de cette folie.
Du coup, c'est vrai que cette période-là aussi héberge tous ces questionnements. Est-ce que la folie donne un talent extraordinaire? Existe-t-il un style spécifique attribuable à la folie? Peut-on identifier les réalisations plastiques de malades mentaux? C'est tous ces questionnements-là, au travers de ce que vont mettre en jeu en même temps aussi bien Breton, Jean Dubuffet, qui lui, bien sûr, au travers de cette émergence du concept aussi d'art brut qui va pouvoir mettre en place, il y a aussi une critique de l'art officiel, enfin, de mettre en opposition par rapport à l'académisme aussi de l'art comme il était à cette époque-là.
Alors, Jean Dubuffet, l'art des fous, ça n'existe pas.
Hein. Voilà, pour lui,
c'est très clair, vous connaissez l'expression, il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des dyspeptiques, ou des balades du genou, voilà, il est très clair là-dessus.
Il est très clair là-dessus, oui, absolument.
Alors, il part à la recherche, on va dire, d'une sorte d'art en marge, qui est, on va dire, des milieux populaires, que l'on trouve dans les asiles. Il en a trouvé un grand nombre.
Oui, au sein des asiles, effectivement.
C'est-à-dire, si recherché, alors là, je cite Jean Dubuffet, des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique dans lesquelles, donc, le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, est peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs étirent tout, sujet, choix des matériaux, mise en œuvre, moyens de transmission, rythme, façon d'écriture, de leur propre fond et non pas des poncifs de l'art classique ou de l'art à la mode. C'est-à-dire, il va chercher un art en dehors de l'art officiel. Alors, il ne va pas courir les asiles, d'abord en Suisse, puis en France. Il va découvrir également des auteurs avec, alors, il dit qu'il faut surtout pas donner de matériel, mais dans quelques endroits. Alors, toujours une minorité de malades.
Oui, aussi.
Alors là, vraiment, on est dans les minorités. Ce sont des gens qui bricolaient tout seuls dans un coin, dans la cour, dans un bout de couloir. Parfois, des médecins ou des infirmiers leur donnaient les moyens pour dessiner. Ça arrivait à l'époque. Ça, y a pas de problème. Nous sommes avant-guerre.
Oui, tout à fait.
On leur fournissait, mais c'était pas du tout institutionnalisé. C'est quelques pourcents.
Mais très peu d'individus.
Très peu. Prinzhorn a repéré la même chose.
Prinzhorn, c'était la même chose, effectivement.
Une infime minorité, et Prinzhorn recommandait, il demandait qu'on lui envoie des œuvres.
Oui.
Et il invitait les médecins à fournir de quoi dessiner, peindre aux patients. Et voilà. Alors donc, Dubuffet, de nouveau, donc, de la même manière, c'est la même démarche sur le fond que celle de Breton. Il révèle culturellement des hommes qu'il inscrit et des femmes qui sont, on va dire, aux confins de la société. Moi, j'emploie souvent ce oui. terme. C'est-à-dire les catégories sociales pauvres ou des gens qui ont des problèmes, quels que soient problèmes sociaux, problèmes de santé mentale, physique, des gens en souffrance à cause d'abandon, on peut imaginer, et qui ont trouvé les ressources et la vitalité pour faire œuvre, souvent pour faire face au vide des journées, quand ils étaient internés, hein, pour donner du sens à leur vie, mais pas un instant dans l'idée de faire œuvre. Pas un instant. Là, c'est ce qu'on raconte, plutôt, c'est ce qui est présenté. Ils les ont fait des œuvres, mais eux, en tant qu'acteurs, dans un établissement, par exemple, c'est pas œuvre qu'ils faisaient. Ils faisaient face au vide des journées, ils se racontaient leurs propres histoires, ils sublimaient des souffrances, il y avait des stéréotypies, il y avait des répétitions, mais ce n'était pas la dimension artistique au sens où on l'entend, je fais œuvre, où je vais faire, où je vais recopier quelque chose pour que ça soit fidèle au sujet. Alors, que ça soit fidèle au modèle, ils pouvaient le faire. Moi, j'en ai vu.
Oui, tout à fait.
Au Bon Sauveur Albi, dans la collection Payas, il y avait des reproductions. Mais on a le droit de faire des reproductions.
Bien sûr.
Mais l'idée, ce n'était pas de.
C'était pas celle-là qui était recherchée, effectivement.
Non. C'est-à-dire, ils faisaient, en gros, ils s'adonnaient aux pratiques artistiques pour se faire du bien. Et puis le vide en face. Hein. Structurer la journée, c'est important pour tout
bien
un chacun.
Bien sûr, complètement.
La première recommandation qu'on donne, par exemple, aujourd'hui à des gens qui, malheureusement, sont au chômage, c'est-à-dire il faut qu'ils construisent leur journée. Bon, chercher du boulot, c'est un travail à plein temps.
C'est certain.
Mais il faut faire autre chose aussi, c'est construire, et c'est très difficile.
Complètement.
C'est très très difficile. Alors les personnes qui s'adonnaient à ce type d'activité, qui pouvaient compter sur du personnel soignant, c'était une chance dans le cadre d'une plus ou moins grande précarité et dénuement de moyens.
Donc
alors
sait...
Jean-Revol, oui. Je me permets de
oui, Jean-Revol aussi, voilà, je voulais qu'on a, on évoque aussi cette personnalité également.
Que j'ai bien connue, plutôt pour l'avoir rencontré, hein,
oui.
Et avoir discuté assez régulièrement avec lui, on a partagé les mêmes jurys à une époque. Jean-Revol, je parlerai moins de la... Alors c'est... Je parlerai moins de l'art originaire que des personnes images, c'est-à-dire où il associait ses auteurs handicapés mentaux à leur œuvre. Il les appelait des personnes images, qui est une très belle perception, on va dire, du travail et de ce que sont ces personnes. Voilà.
Complètement.
La grande qualité de Jean-Revol, qui a fait le tour de France des CAT, on dit des ESAT aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui. Établissement de services et de soins.
C'est qu'il a fait le Tour de France à l'initiative du SNAPEI, qui était le syndicat employeur.
Oui.
Et ce qu'il a mis en évidence, et c'est lui qui l'a écrit très bien dans son livre « Art débile, débile de l'art », il l'a mis en évidence, c'est que on n'attend rien des personnes handicapées mentales, ou si peu. On les considère comme des robots économiques. Et étrangement, et spectaculairement, elles sont capables d'art. C'est tout ce que dit Jean-Revol et c'est ce qu'il démontre. D'autres l'avaient démontré
déjà
auparavant.
Ouais, complètement.
Auparavant, dans, on va dire, hors du médico-social, depuis très longtemps. Mais il l'a dit d'une manière très forte, il l'a démontré par la pratique.
Et ça, c'est d'autant plus fort.
Et ça, c'est intéressant. Alors, l'art originaire, un peu comme l'art des fous, avec cet art fondé sur un handicap. C'est son point de vue, moi je suis plus réservé. Il me semble que le plus important de sa démarche, ça a été sa chance qu'il a, et puis l'attention et l'exigence qu'il s'est donnée de travailler avec ces personnes. Et il a révélé des auteurs tout à fait intéressants. Alors là, je dirais pas, est-ce qu'il faisait œuvre quand il payait? En tout cas, ils étaient bien contents de rencontrer Jean-Revol dans les ateliers. Il raconte des histoires tout à fait sympathiques. Il discutait, il blaguait avec eux. Il ne travaillait pas sur ses propres toiles du tout, pour ne pas les influencer.
Pour
ne
pas les influencer, après.
Voilà, c'est...
Ça, c'est aussi quelque
et
chose d'important.
Jean-Revol a eu un rôle absolument déclencheur. Je parle du médico-social.
Oui.
Auprès d'éducateurs, auprès de moniteurs éducateurs, auprès des personnels, que on pouvait avoir, il fallait pousser vers l'exigence.
C'est ça, l'exigence artistique et la rigueur du travail.
Artistique, et on y trouvait du plaisir.
Bien sûr.
Même dans le cadre des pratiques amateurs, c'est-à-dire, ils sont capables d'art, mais faisons-le bien. Travaillons convenablement avec eux, soyons attentifs, soyons disponibles à l'écoute, leur donner une variété de supports, de matériaux. Voilà.
Petite pause alors musicale, Gérard Bonnefond, et nous nous retrouvons très rapidement. Résonance sur Radio B, pratique artistique et thérapie par l'art de l'asile au médico-social, avec notre invité Gérard Bonnefond. Alors bien sûr, notre émission avance dans le temps, mais je voudrais quand même dans le temps peut-être qu'il nous reste encore, dans cette dernière partie d'émission, par rapport à ce que nous venons d'évoquer, Gérard Bonnefond, c'est difficile de pas d'évoquer très rapidement quand même Winnicott, par exemple, parce que ce qu'on évoquait là justement à l'instant, alors théoricien de la créativité, et qui nous parle un petit peu de qu'est-ce que c'est que l'être créateur, hein. Pour être créateur, dit-il, l'individu doit exister et sentir qu'il existe. Ce n'est pas un sentiment conscient, c'est simplement une base à partir de laquelle il agit. La créativité, donc le faire, qui dérive de l'être, elle montre que celui qui est, est vivant. Et ça, c'est important. Enfin, ça fait ce qu'on évoquait juste il y a quelques instants, me semble tout à fait aller dans ce sens-là, avec ce regard plutôt théorique, pardon, sur justement ce que peut être la créativité.
Effectivement, Winnicott, pour moi, est la référence, et en particulier un aspect que vous n'avez pas évoqué, mais qui est contenu dans les propos de Winnicott, je dirais pas le pédagogue, je dirais, mais c'est la personne qui accompagne.
Oui, ça c'est la partie essentielle.
C'est le holding de Winnicott. S'il y avait les apports sur la créativité, les apports théoriques sur la créativité, il faut les connaître. Mais l'aspect, c'est une bonne chose. L'aspect holding, c'est-à-dire cette manière dont l'enfant est tenu par sa mère, mais aussi bien sûr au père, dans la petite enfance, pour lui présenter le monde, pour le mettre en confiance, pour le réassurer, ce visage bienveillant, accueillant, généreux. Je crois que le holding de tout responsable d'atelier, qui fasse du jardinage, ou qui fasse de la musique comme vous, ou des arts plastiques comme Jean Revol ou bien d'autres, est déterminant. C'est cette manière d'être attentif et surtout d'être présent. Cette réelle présence.
Cette présence à l'autre.
Qui n'est pas l'intrusion, vous allez faire comme je vous le dis, et puis avec des codes, même s'il faut apprendre de la technique.
Bien sûr, bien sûr.
C'est la manière dont on présente en fonction de ce que sont les personnes, dont elles peuvent se saisir. C'est cette attention, cette communication, ce rapport de bonne distance. Et Winnicott en parle avec des termes tout à fait remarquables. Cette manière de tenir, c'est une relation psychique. C'est ensemble, mais deux personnes séparées, et on travaille ensemble.
Il y a aussi Jacques Rancière qui parle aussi de ces questions-là et qui évoque que du coup l'objectif aussi c'est de faire dans cette relation qui va s'établir qu'une intelligence puisse se révéler à elle-même.
Oui, oui, oui.
Je crois que c'est aussi cet enjeu-là, c'est une autre manière de le dire, mais qui va être vraiment touché, la qualité de relation qui va être là entre ce qui va se passer entre ces deux personnes au travers du média artistique.
Oui, oui, tout à fait. En tout cas, c'est disponible, attentif. C'est une présence-absence, c'est être en retrait et être présent.
Oui, c'est ça.
C'est une posture que vous connaissez bien dans vos directions musicales.
J'essaye en tout cas.
Et dernièrement, c'est hier, c'est une anecdote, j'assistais à une répétition dans un conservatoire dont je tairai le nom, où tout le monde connaissait la musique. Il répétait le final de la 9e avec 100 enfants, puis une petite formation musicale. Et je me souviens de Claude-Henri Joubert qui disait « La musique, c'est au millième de seconde. Les attaques, c'est être ensemble, c'est... » Bon, c'est un grand exercice, une grande exigence et un bel exercice.
C'est certain.
Voilà. Et hier, j'ai assisté à une séance qui m'a désolé parce que tout le monde, ils aimaient tous chanter. Ils jouaient tous un instrument, l'orchestre.
Oui.
Mais ils n'étaient pas ensemble. Et le chef, aussi sympathique, je connais fort peu, il tenait pas dans l'attention. Voilà, c'était du Winnicott appliqué, mais à l'envers.
Mais à l'envers, c'est ça.
Il ne tenait pas dans l'attention, c'est-à-dire il ne regardait pas. Moi, je me souviens de l'interview avec Claude-Henri Joubert, il disait, mais ses regards, il faut sortir, il faut lever la tête, il faut se regarder quand on joue de la musique, être ensemble, c'est cette attention. Et là, hier, j'étais absolument désolé.
Désolé de...
De voir que c'était pas ça. Et curieusement, en fermant les yeux, j'écoutais, tout était juste et tout était faux.
Oui, mais ce qui n'est pas étonnant, effectivement, c'est qu'à un moment donné, si on n'est pas ensemble dans le être ensemble qu'on essayait de dépeindre, hein, et dans le témoignage que vous en apportez, effectivement, ça va avoir une influence sur le son et la musique qui va être produite. C'est-à-dire
Absolument.
Que les notes auront beau être là, mais en réalité, ça ne sonne pas vraiment juste parce qu'on n'est pas ensemble.
Ah oui, c'était... Alors voilà, là c'est du Winnicott appliqué, si je me permets, à partir de cette histoire, c'est-à-dire, c'est pas seulement une question technique, c'est de présence, et ces regards qui en disent long sur le fait qu'on fait de la musique ensemble,
Absolument.
Qu'on fait du théâtre ensemble.
Tout à fait. Gérard Bonnefond, très rapidement, on va pas rentrer dans les détails, mais dire aussi que toutes ces pratiques-là, au fur et à mesure qu'elles se sont développées aussi dans les établissements, elles vont amener aussi d'autres types de questions. Il y a celles de fond qu'on vient d'évoquer, mais aussi par exemple des questions éthiques, de déontologie, mais aussi de droit par exemple, c'est-à-dire de propriété artistique. C'est-à-dire au fur et à mesure que vont se développer dans ces établissements, que vont pouvoir circuler aussi toutes ces œuvres. Alors là, on va parler vraiment d'œuvres, mais que ce soit aussi dans le cadre de ces ateliers de pratique artistique, quelquefois aussi dans le champ de l'art-thérapie. Voilà, toutes ces œuvres, du coup, à un moment donné, va se poser la légitimité aussi et des droits qui peuvent être en référence aussi à celles-ci.
Oh ben... c'est extrêmement simple. L'auteur est propriétaire de son œuvre, quel que soit le lieu dans lequel il l'exerce. Il en est le propriétaire. C'est la propriété artistique, il a le droit moral sur son œuvre, un droit pécunier, que ce soit les reproductions. Et dans le spectacle vivant que vous connaissez, il faut établir des contrats, des conventions. Voilà, c'est le droit. Et de plus, les personnels, alors là, c'est la réglementation, les codes. Je résume, mais les personnels travaillant avec des personnes handicapées, malades, etc., ou en difficulté, ou personnes âgées, n'ont pas le droit de recevoir, à titre gracieux, des œuvres, des séries d'œuvres. Ça, c'est absolument impossible, ça n'existe pas, il ne faut pas le faire. C'est pas plus que d'acheter, c'est compliqué. Mais parce qu'il ne peut pas y avoir de confusion entre son exercice professionnel auprès de ces personnes et puis alors je dirais si un gamin ou une jeune femme vous fait cadeau d'une sculpture une fois par an, ça s'accepte.
C'est clair.
C'est dans le cadre d'un échange.
Quand
en
ça
général,
devient une pratique.
Vous recevez un cadeau et puis vous. Et ce qui est dans les termes d'un échange réciproque, quand on reçoit un cadeau, on rend quelque chose.
Complètement.
On peut apporter un gâteau ou on peut apporter quelque chose qu'on a fait soi-même. D'ailleurs, c'est dans le cadre d'un, dans le cadre
d'un échange. Absolument.
Voilà, et puis il ne faut pas chercher à que ce soit une réflexion thérapeutique intense. C'est comme tout un chacun.
C'est ça. Là, on peut renvoyer, si nos auditeurs ou ceux et celles avaient envie d'aller un peu plus loin, vous faisiez référence dans votre ouvrage à justement un travail d'un avocat, François Planche, qui en 1992 a fait un ouvrage, il y en a d'autres hein, bien évidemment, et ceux du droit que vous évoquiez à l'instant, mais qui a intitulé cet ouvrage « Les droits inaliénables du handicapé sur sa production artistique ». Et là, on peut trouver un certain nombre d'éléments qui permettraient de nourrir aussi éventuellement les interrogations que certains et certaines pourraient avoir par rapport à toutes ces questions. C'était un grand parcours, Gérard Bonnefond. En ces deux émissions, on sait qu'on n'a pas pu forcément tout aborder, mais en tout cas, je pense qu'on a essayé ensemble de tisser un parcours, un chemin, de là où nous sommes partis, sur deux siècles à peu près, pour se rendre compte de toute l'importance de ce mouvement, pour se rendre compte aussi, et encore d'autant plus avec les événements qu'on a tous vécu tout récemment, l'importance de la culture, de la rencontre avec l'autre, de pouvoir être ensemble, comment être ensemble, et que le champ des pratiques artistiques, en tout cas, lui aussi, il a tout à fait sa place et son importance, dans ce cadre de ce que peut être notre société aujourd'hui. En tout cas, qu'on devrait lui accorder plus de place et travailler largement plus autour de toutes ces questions pour que chacun, quelque part, puisse trouver à entendre l'autre, comprendre l'autre, et puis essayer de faire ensemble, en tout cas. Hein. Donc, merci beaucoup pour avoir été ce guide. Dans ce passionnant voyage, dans l'histoire des pratiques artistiques, dans le champ de la santé et du médico-social. Bien sûr, je redis à nouveau que tous ceux et toutes celles qui désireraient en savoir un petit peu plus loin, vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, donc aux éditions Chroniques Sociales, l'ouvrage de Gérard Bonnefond, Pratiques artistiques et thérapie par l'art, de l'asile au médico-social. Merci Gérard Bonnefond.
Merci Alain Goudard, bonne continuation.
Et à vous
à
aussi.
Bientôt.
Et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. J'étais accompagné aujourd'hui par Simon Deborne à la technique et à la réalisation. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr podcaster, réécouter la présente émission sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou bien évidemment sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous proposer ce type d'émission. Et je vous dis à très bientôt.